Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. On est dans la libre antenne un peu spéciale puisqu'aujourd'hui il y a Yann qui est avec moi mais qui est juste allé chercher de l'eau. On fait une pause entre deux émissions, rassurez-vous, et on va se faire une petite libre antenne. Vous connaissez le principe de la libre antenne, c'est vous qui intervenez, c'est votre émission, c'est vous qui la faites. Donc vous allez sur le Discord d'Acropolis, vous devez vous mettre dans un chat, dans un channel vocal obligatoirement, et en plus de ça, vous devez dire quel est le sujet que vous voulez aborder dans le channel écrit Discord. À cet effet, prévu à cet effet, n'est-il pas? Voilà. Bonsoir en tout cas à celles et à ceux qui sont là. Merci à vous d'être restés. Viens à côté de moi, mon Yann. Remets ton casque. Et donc voilà. C'est Sylvain en régie qui choisit les personnes qui vont dans la libre antenne, sachant qu'on essaie toujours de privilégier les personnes qui ne sont jamais passées dans la libre antenne, histoire que ça tourne un petit peu, ce soit pas toujours les mêmes. Voilà. Quoi vous dire d'autre, si ce n'est de mettre un pouce bleu, évidemment, sous le live YouTube. Donc allez tout de suite sur YouTube, mettez un pouce bleu. Ça fera plaisir. Je te propose qu'on fasse un.
Balance.
Est-ce qu'on peut faire du multijoueur local? Normalement, on peut.
Jeu local.
Attends. Trackmania, ouais, vas-y. Jeu en ligne, jeu local, éditeur.
Jeu local, il n'y a pas plusieurs bonhommes.
Jeu local, map unique, contre replay, hot seat, réseau local.
Ah non, mais c'est pas avec plusieurs ordines.
Hot seat, c'est quoi?
Le siège est chaud.
Non, t'as un système. Contre replay. Il y a des gens qui sont en face. Voilà, c'est évidemment Sylvain qui va décider de qui passe. Je sais plus comment on fait, mais normalement j'avais vu qu'il y avait un système où
Sinon,
on
on peut
peut jouer.
jouer l'un après l'autre.
Bah, je crois que c'est ce qu'on va faire. Hein.
À
Regarde,
l'ancienne.
on va faire la campagne. On a foutre. Hop, 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 tac.
En plus, j'ai jamais joué quand c'est parfait. Parce que moi, je suis un joueur de console.
Voilà. Voilà. Le temps que ça load, Sylvain, si tu peux nous dropper quelqu'un, n'hésite surtout pas. Je t'en prie, cher ami.
Comment qu'on joue?
T'as les flèches. Entrée pour revenir au dernier checkpoint et retour arrière pour revenir au tout début de la map. Là, tu fais entrée normalement. On n'a pas de son, mais ça devrait arriver tout à l'heure.
Et bonsoir.
Et bonsoir!
Salut.
Comment tu
Salut Jean,
t'appelles?
c'est Yann.
La voix me dit quelque chose, on l'a pas déjà reçue?
On t'a pas déjà reçu? Qui est-ce?
Exactement, c'est Perceval.
Hey, Perceval, comment tu vas, vieux?
Très très bien, très très bien. Vivement, vivement samedi.
Mais
Toujours
ouais, samedi, l'Apéropolis, je rappelle, à partir de
Yep,
20h à
dans le
Paris,
11e.
dans le 11e, le bar qui s'appelle le 11
Exactement,
Bar.
les billets de train sont pris, tout est envolé,
Yes. T'as
les valises
trouvé un
sont
endroit où
faites.
crécher?
Exactement, d'un ami qui est dans le 11e, c'est super.
Eh ben nickel.
Voilà. Et donc, mon sujet du soir, c'était la démographie médicale, parce qu'on parle beaucoup de ça encore à l'Assemblée,
Absolument.
mais du point de vue des étudiants,
T'as loupé un checkpoint.
en médecine,
Tu dois
en
recommencer.
etc.,
Ah, il faut faire
pharmacie,
tous les
en
checkpoints, attends, excuse-moi.
chirurgie dentaire, etc.
Ok.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? La démographie médicale?
Ouais, mais du point de vue des étudiants, pas du point de vue juste des localités qui ont besoin de personnel, etc.
Alors raconte-nous le sujet du coup.
Ben, en fait, le sujet, enfin, c'est toi qui fais QAG, donc t'es bien au courant.
Ah oui, ça
À
je
chaque
connais,
fois,
mais
il y
les
a
gens
toujours
qui
une
nous
petite
écoutent peut-être
question.
pas.
Voilà, il y a toujours une petite question sur oui, on n'a pas assez de médecins chez nous, les zones se dépeuplent et on n'a pas de quoi faire les soins, etc. Donc c'est intéressant, effectivement, c'est un sujet
Ah
qu'on
ouais,
se
c'est un vrai
pose
sujet,
toujours.
ouais.
Ouais.
Mais il y a aussi le point de vue des étudiants, des mecs qui sortent de la fac, est-ce qu'on va les obliger à aller de se planter dans des coins qu'ils n'ont peut-être pas envie d'aller habiter ou d'y aller travailler? Donc moi, mon point de vue, c'était par rapport aussi au fait qu'effectivement, on parle beaucoup d'initiatives de la part des collectivités, des régions, etc., qui
Ouais.
proposent des installations, des aides à l'installation,
Ouais.
des aides au financement, des aides, etc.
C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais ils vont même
Quand
chercher
tu
des
sors de
mecs
la
dans d'autres pays,
fac,
ouais.
t'as passé facilement 8 à 10 ans dans la même ville, t'as fait des amis, t'as fait des relations, etc.
C'est vrai.
Te forcer à être pointé dans la Creuse, dans la Meuse, ça peut être un peu compliqué de ce point de vue-là.
Eh oui, t'as envie de rester dans la.
Et bien sûr,
Là où
enfin,
tu as
on est
fait.
tous humains. Voilà, on se dit, bah, je vais rester dans ma région, j'ai rencontré des gens de cette région-là, là où j'ai fait mes études, effectivement. Et donc, de mon point de vue, moi, j'ai connu plusieurs initiatives. La première, c'était un programme, alors je sais pas si c'est national ou c'est régional, qui proposait en fait de donner une somme tous les mois
Ouais.
aux étudiants qui sont en formation, donc depuis la deuxième année, moi je suis chirurgien dentaire, donc c'est un peu plus court qu'en médecine, la deuxième année jusqu'à la sixième, qui est la dernière année chez nous, et une fois que les études terminées, on devait effectivement aller se pointer dans une zone sous-dotée
Ouais.
pendant le même nombre de mois que la période où on a eu cette subvention. Ce qui n'est
D'accord.
pas une mauvaise chose, c'était pas un mauvais plan. Mais effectivement, les seules personnes qui ont signé pour ce truc-là, c'est des gens qui venaient de petites facs, c'est-à-dire des facs d'Orléans, de Tours, qui n'étaient pas non plus une petite fac, ou d'Angers, etc. Donc des gens qui savaient très bien qu'ils allaient trouver facilement des zones sous-dotées pas très loin de chez eux.
Donc en gros, ce que tu veux dire, c'est que c'est quand t'as fait ta fac de médecine dans une grande ville avec une grande université que t'es le moins encouragé à aller t'installer en zone sous-dotée.
Mais disons que ceux qui vont aller en zone sous-dotée, c'est ceux qui ont déjà de la famille là-bas. Donc c'est pas
D'accord.
non plus la majorité des gens, on va dire.
Ouais.
Et au final, une fois qu'ils ont fait leur temps, il y a de grandes chances qu'ils vont revenir dans la ville où ils ont fait leurs études, on va dire. Donc en fait, au final, on va avoir surtout des jeunes étudiants qui vont, je pense, entre guillemets, aider un petit peu les coins où il manque du monde.
Ouais.
Mais je sais pas si ça va vraiment faire s'installer des gens sur le long terme. Ça me paraît un peu étrange.
Ouais,
Il y a un autre
c'est
aussi,
vrai.
ouais. Et aussi en fin d'études, enfin, pour les médecins, les pharmaciens qui font l'internat, c'est tout ça, enfin, ils font tout ça. C'est-à-dire tous les 6 mois, ils vont changer de centre hospitalier.
Ouais.
Je sais pas, j'ai une très bonne amie qui a fait Châteauroux, qui a fait La Roche-sur-Yon, etc. Donc, ils sont pas des gros centres hospitaliers. Mais c'est pareil, ils vont passer 6 mois dans un coin. 6 mois plus tard, ils vont déménager, ils vont changer d'internat, etc. Est-ce que c'est ça qui va vraiment les faire s'inciter à s'installer dans des coins un peu
Non, mais
plus reculés?
la médecine hospitalière, c'est pas pareil. La médecine hospitalière, tu t'installes pas sur un territoire.
Je sais bien, mais
C'est plutôt pour la médecine de ville.
finalement, tu vas essayer de choisir en fait le CH plus gros, on va dire entre guillemets, c'est par rapport à ce que tu veux faire.
Ouais, c'est vrai.
À quel moment dans les études ça va, il y a une incitation vraiment réelle à s'installer dans des coins un peu plus
Bah, je sais
sous-dotés?
pas, moi, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme politique incitative pour toi?
Bah, alors, il y a deux
Ou
solutions,
coercitive d'ailleurs, hein, c'est toi qui vois.
effectivement, il y a la solution coercitive où vraiment on sait, bah, tu vas là et point barre. Pour
Qu'est-ce que t'en
l'instant,
penses, toi?
c'est les pharmacies officinales qui font ça, c'est-à-dire qu'il y a un quota de pharmacies par ville, par région, etc., par canton. Donc au final, on ne peut pas avoir autant de pharmaciens qu'on veut.
Ouais, c'est
Mais pour
vrai.
le moment, ça, c'est encore compliqué. Et il y avait aussi l'autre truc, c'est il y avait les initiatives justement pour créer son cabinet, etc. J'en discutais avec les gens de Stupid Economics l'autre jour.
Ouais.
C'était le fait que, bon, t'as les 28-30 ans, t'es sorti, t'as un peu de capital derrière toi, par un PEL ou n'importe quoi. On te propose de créer ton cabinet dans une région sous-dotée, très bien. Tu sais très bien que tu vas avoir de la patientèle. Mais quand tu vas à la banque pour proposer ton projet, ils
Ouais.
vont dire très bien, mais votre patientèle, c'est une patientèle qui est en croissance, c'est des personnes âgées, des zones où il ne va pas y avoir de renouvellement de la population, etc.
Mais qu'est-ce
C'est
qu'on
pas un très
l'emmerde
bon
la
plan
banque?
d'investissement.
Pourquoi elle...
Et parce que tu auras quand même besoin de la banque pour créer ton cabinet, monter les murs, monter
Ouais, c'est vrai,
l'entreprise,
c'est vrai.
acheter le matériel, etc. Enfin, bon, en tout cas, moi, chirurgien dentaire, c'est surtout ça qui pose problème,
En
c'est qu'il faut acheter
dentaire,
du
ouais.
matos.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Donc, si pas de
C'est
matos,
un
tu fais
nom
rien.
d'ailleurs, c'est un nom précis, c'est quoi le nom?
C'est un nom précis?
Oui,
De
tout
quoi?
ça.
La patientèle, non?
Non, tout ce que tu dois acheter là, avec le siège, les
Les
outils.
consommables, le fauteuil, les outils, les turbines, etc. Enfin,
Non, mais je sais qu'il y a un mot précis qui veut dire tout ça, mais je me souviens plus. Ça faisait même partie des débats quand il y avait eu
je saurais pas dire.
les derniers trucs avec Touraine, où tu sais,
D'accord.
La médecine de ville, le
Non,
village ambulatoire.
parce qu'il y a eu un truc entre Touraine et les dentistes,
Ouais. Ouais.
dernièrement.
Ah oui. Je te
Et,
raconterai
no
ça après, tu veux.
et notamment sur le. Il disait que n'était pas pris réel le coût des équipements, mais ça avait un nom précis, tous ces équipements. Je suis très mauvais.
En tout cas,
Transparent.
on en pourra parler après si tu veux, mais en tout cas, voilà, c'est que n'importe quelle entreprise, il faut monter un projet auprès de la banque pour avoir un prêt. Et si tu expliques que la population qui va autour de chez toi, bah, ça va décroître, de toute façon, les gens s'en vont, il n'y a pas de nouvelle famille qui arrive, etc. Les gens vont tous te dire avec des grands yeux, bah, non, c'est pas un bon projet, allez plutôt ailleurs. Donc, dans mes mains, on est coincé. Donc après, il y a les régions qui montent des maisons de santé, ce qui est pas une mauvaise idée non
Ouais, t'en
plus.
penses quoi, toi, des rassemblements de professionnels, du coup?
Bah ça c'est pas mal, effectivement, on vient rassembler les frais, etc. Donc on réduit un peu l'investissement lui-même. Puis il y a des aides, effectivement, directement. Mais pareil, je veux dire, tu connais personne dans le coin, tu vas t'installer avec des mecs que tu connais pas, tu sais pas si ça va bien se passer ou pas, c'est un risque à prendre. T'as peut-être envie de t'installer justement avec des mecs que tu connais déjà, ou avec qui t'as déjà travaillé près de ta fac, etc. Donc tu vois, c'est joli à dire, effectivement, dans un discours ou dans un programme, etc. Mais quand il faut impliquer des mecs qui ont 30 ans, qui ont peut-être envie de rêver de faire autre chose que d'aller dans des coins un peu reculés de la France, ça devient compliqué. Donc effectivement, il y a la vocation. Je pense qu'il y en a aussi de moins en moins. Genre, il y a la vraie vocation de faire le médecin de campagne, etc. Je sais pas où on va comme ça. J'ai peur que.
Bah écoute, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus.
Disons qu'il y aura des belles maisons de santé magnifiques, mais il y aura personne pour bosser dedans parce que.
Ce serait moult dommage.
On a bien envie, on a tous envie d'aller, je sais pas, sur le soleil ou dans des grandes villes, etc., avec où il y a de la vie culturelle, etc.
Le son du jeu est encore un peu fort. Attends, je vais le baisser rapidement dès que ça s'affiche.
Les vraies structures, ouais, peut-être. Je sais plus. Enfin, en gros, c'est le mobilier, quoi, sur tout ça. Mais voilà. Mais toutes les deux semaines, on entend une question au QAG là-dessus. Et,
ah oui, toujours. Non, mais bien sûr, sur les.
Toujours sur les... réagir, quoi.
C'est... Non, mais surtout, ce qui me fait marrer, c'est tous les députés qui t'expliquent qu'il faut mettre fin à la liberté d'installation et qu'à chaque fois qu'il y a un gouvernement, il le fait pas. Évidemment, personne ne reviendra jamais sur la liberté d'installation. C'est juste impossible.
On est déjà en pénurie partout, donc effectivement.
On n'est pas en pénurie. Il y a un problème de
répartition. On n'est pas en pénurie de médecins. Alors, ça dépend où tu te trouves, mais effectivement, si t'es en plein Paris, il y a effectivement pas de pénurie de médecins, mais dès que tu sors un petit peu,
voilà, exactement.
Donc on n'a pas de nouveaux patients. Parce qu'on
ce n'est pas une pénurie, c'est une mauvaise répartition géographique. Non, mais c'est vrai.
Ouais, je sais pas. Enfin,
le problème n'est pas le numerus clausus.
Ah ouais?
Mais non, bien sûr que non.
Mais t'en penses quoi du numerus clausus?
Mais moi, je pense qu'il faut avoir des mesures incitatives au maximum, avec des abaissements fiscaux, avec des zones franches, avec des prêts à taux zéro pour la création de maisons de médecins, avec des places en crèche qui sont prises. Par la mairie, etc. Enfin, il faut aider les médecins à s'installer en campagne, mais il faut pas mener de politique coercitive en disant aux médecins tu t'installes là et nulle part ailleurs. Ou alors, par contre, la proposition j'ai entendu à l'Assemblée nationale cette semaine sur le conventionnement, sur la condition du conventionnement, me paraît pas tout à fait absurde. C'est hyper violent, hein, mais en gros, c'est tu veux t'installer à Paris? Ah, bah on conventionne pas avec l'assurance maladie.
Après Paris, t'es quand même un cas vraiment très particulier. Hein. C'est vrai.
Bah oui, mais le problème, c'est qu'on est que dans des cas particuliers.
Il y a Paris et le Sud-Est, ça, effectivement, pas vraiment. Il n'y a pas que Paris et le Sud-Est en France, heureusement. Donc, je sais pas.
Je sais
pour
pas.
Des gens qui sortent de la fac, qui ont chié pendant quasiment des dizaines d'années, je trouve ça un peu dur, quoi.
Bien sûr,
tu vas aller à Paris parce que ton papa il a déjà son cabinet et toi tu vas aller ailleurs. Tu vois, c'est un peu.
Le problème c'est que c'est dur pour les pauvres médecins qu'on peut pas trop coercionner parce que sinon les pauvres c'est dur pour eux. Et en même temps c'est dur pour tout le pays parce qu'on a des déserts médicaux partout. Donc il y a un moment, faut faire des choix politiques.
Mais ouais, je te dis qu'on en discutait aussi, c'est désert médical, d'accord, mais ça devient aussi un désert tout court. C'est-à-dire qu'il y a déjà plus grand monde aussi dans certains coins. Sur long terme, si tu vas à 20-30 ans, il y aura de moins en moins de familles. Et donc, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller monter un truc là-bas?
Donc, oui, et en même temps, est-ce que la désertification médicale ne participe pas à la désertification tout court?
C'est pas si, mais effectivement, il n'y a pas que les médecins, il y a les commerces,
il y a tout. Non, mais il y a tout. Les
centres de vie culturelle, etc.
Ah, le problème, c'est que si chacun se regarde en coin en chien de faïence en disant, mais c'est pas moi, c'est à l'autre de rester, etc., et ça nous attirera, le problème, c'est que personne reste.
Oui, j'imagine, effectivement, oui.
Écoute, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans le chat qui va avoir une idée, une solution magique qui nous proposera d'en parler. Mais merci à toi en tout cas Perceval d'avoir mis ce sujet sur la table. Et à samedi. Salut Perceval, merci.
J'essaie de retrouver le mot que je cherchais, mais je trouve pas encore.
Je trouve pas. Ah là là, les déserts médicaux. Quel bordel. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est scandaleux, mais dès qu'il s'agit de trouver une idée, tout le monde dit, je comprends, c'est compliqué pour les pauvres médecins qui ont fait des années d'études. Pauvre bichette, va.
Fais attention, t'es presque de gauche.
Quoi, parce que je me mets à dos les médecins qui votent tous à droite. Salut les médecins.
J'ai pas retrouvé le mot, mais il y a un mot précis qui veut dire l'ensemble des équipements, etc. etc. J'ai pas retrouvé.
Numerus clausus qui ne tient pas compte des médecins à mi-temps, on en parle. Ouais, écoute, on en parle quand tu veux.
Oui, j'ai pas compris.
Sylvain, tu peux nous passer quelqu'un, vas-y, je t'en prie.
Oui. Tchou. Quelqu'un qui a une solution.
Ouais. Solution magique si possible. Allô.
Salut. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Comment allez-vous?
Ben ça va bien et toi?
Moi ça va bien.
Qui es-tu?
Oui, bienvenue, dis-nous qui tu es.
Alors je m'appelle Ryan, j'ai 16 ans.
Salut Ryan.
Salut.
J'ai 16 ans et j'aime la politique grâce à toi. Tu m'as fait aimer ce petit bout de politique et d'Assemblée nationale.
Ah merde, je suis désolé.
Et je voulais te remercier.
C'est chiant.
Non, fais gaffe. Fuis, mec. Yann et moi te le disons, casse-toi.
Ouais, c'est chiant.
Ne reste pas. Non mais écoute, ça fait plaisir. Merci, mec.
Ouais, du coup, j'ai fait découvrir Acropolis à peu près toute ma classe.
Trop bien.
Ouais, du coup, le mercredi, parce qu'on a créé un club, et du coup, le mercredi, quand tu fais les QAG, on est à 10 dans une salle et on regarde avec le vidéoprojecteur.
T'es pas sérieux, c'est trop bien. Mais non, c'est trop bien. T'es en quelle classe?
Je suis en première ES.
T'es en première ES ou ça?
Lycée Condorcet de Chenec, dans le Grand Est, voilà, voilà.
Dans le Grand Est. Ah bah putain, c'est con, je pourrais pas venir regarder avec vous.
Un big up à tout le lycée Condorcet.
Mais un gros big up à tout ton lycée Condorcet et à tous tes potes avec qui vous regardez les QAG commenter. Hein. Putain, mais c'est trop bien, c'est une super idée.
À l'Acro Club.
Ah, ça s'appelle plus, comment du coup le club
C'est un club politique économique.
Putain, c'est trop bien.
Bon, ES, c'est normal, quoi.
Bah vas-y, envoie-nous un selfie du club la prochaine
ES
fois.
ES représente.
Bah oui. Et d'ailleurs, je vais faire ma petite pub. Je fais des portraits et du coup, je voulais savoir si ça intéressait que je dessine toute la bande d'Acropolis. Voilà, là. Voilà, voilà.
Carrément?
Bah oui. Du coup, je vais t'envoyer un DM sur Twitter après.
Envoie-moi un DM, ouais, carrément. Envoie-moi un DM. Mais si tu fais des portraits, bah carrément, c'est une super proposition. C'est trop sympa. C'est trop sympa. Mais alors, du coup, t'as découvert comment, toi, Acropolis? Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Bah, en fait, moi, j'ai connu il y a à peu près un an et demi, voire même 2 ans.
Au début, presque.
Bah du coup,
ouais, et en gros, j'ai découvert ça sur Twitter. Hein, un petit type avec qui je parlais m'avait dit écoute, regarde Acropolis, c'est trop bien. Et du coup, j'ai regardé, j'ai adhéré direct. Voilà.
Eh bah écoute, c'est vachement bien. Putain, tant mieux.
Bah merci d'avoir suivi jusqu'à
ouais, aujourd'hui. Hein. Et il y avait un sujet en particulier dont tu voulais parler ou pas?
Bon, en fait, j'en avais deux.
Vas-y.
Le premier, c'était avec les États-Unis qui reconnaissent Israël.
Jérusalem.
Du coup, je me demandais un peu si ça craignait pas que Donald Trump fasse ça et que... Bon, j'ai un peu de mal à m'exprimer parce que je suis un peu dérangé, enfin, un peu intimidé par vous deux.
Bon, mais alors, déjà, il faut pas, et ensuite, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème
d'expression. On fait caca et pipi comme tout le monde.
T'inquiète pas. ouais, ouais, non, vas-y, continue.
Du coup, je voulais savoir si le fait de reconnaître Jérusalem comme la capitale de...
d'Israël,
ne mènerait pas à des conflits diplomatiques à l'ONU, par exemple, ou à d'autres pays qui ne reconnaîtront pas et du coup créer des méfiances auprès des États-Unis. Enfin, voilà, voilà.
Pour te répondre, oui, oui.
Bah, ça a déjà commencé.
Oui, c'est à craindre, ça a déjà commencé. Le Hamas a appelé une nouvelle intifada. Donc, je rappelle, hein, c'est un des partis palestiniens, partis politiques qui tient notamment la bande de Gaza et qui a une fraction armée et qui a appelé une nouvelle intifada. Intifada en arabe, ça veut dire soulèvement et ça rappelle les intifadas des années 90-2000. Donc, des soulèvements populaires palestiniens contre l'occupation israélienne qui sont des moments terribles
qui finissent assez mal.
Qui finissent assez mal, notamment pour les Palestiniens, mais d'une manière générale pour la paix, ça finit assez mal. Donc, oui, l'initiative unilatérale de Donald Trump de reconnaître Israël comme la capitale de l'État d'Israël est une initiative qui
a été critiquée par tout le monde,
critiquée par absolument toute la communauté internationale, à l'exception de l'Arabie Saoudite, je crois.
Ok.
C'est pour faire chier l'Iran.
D'accord.
Donc voilà. Et est-ce que ça n'a pas créé une crise diplomatique? Bah ça, ouais, c'est un peu la deuxième question, parce que le problème, c'est que les États-Unis sont certes totalement isolés sur la scène internationale et
ils
en
sont
même
assez
temps
gros pour
montrent à tout le monde qu'ils en ont rien à battre d'être isolés.
Trump, de toute façon, on a à peu près rien à faire de quoi que ce soit.
Trump a fait un certain nombre de discours qu'on a analysé d'ailleurs sur Acropolis et qui montrait que la réflexion de Trump, c'est de dire moi les gars, j'ai été élu par les Américains pour m'occuper des Américains. Donc en fait, ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est pas mon problème. Non. Et les manchots qui prennent chaud en Antarctique, c'est pas mon problème. Voilà. Et donc voilà, il a des positions, il ne défend que les intérêts américains et cela seul, quitte à parfois mettre en danger la paix dans toute la région et dans tout le Proche-Orient. Mais ça, c'est Trump. Et
d'accord.
Donc voilà, oui, si, moi pour te répondre très clairement, si, faut-il craindre des tensions diplomatiques et un regain de tension dans cette région, je pense que ce n'est pas faire insulte à la vérité que de dire qu'il y a une menace pour la paix.
Ouais.
Du coup, je regrette fort mon pseudo Twitch.
Pourquoi est-ce quoi ton pseudo Twitch?
Leader Supreme Trump.
C'est toi Leader Supreme Trump. Effectivement, après ça peut être un pseudo ironique, hein, y a pas de problème.
Ouais. Et du coup, en fait, ma deuxième question, pour te mettre un peu dans le contexte, je suis de la 6e circo de Moselle. Mon député Christophe Arend, l'homme qui a battu Florian Philippot, et il y a quelques temps, il a été accusé d'agression sexuelle.
Ah merde.
Et,
c'est un député En Marche, non?
Un député de La République En Marche.
Ouais, oui, je me souviens.
Oui, voilà. Et il y a quelques jours, t'as le... Je crois que c'est le procureur de la République de Sarreguemines qui a classé l'affaire sans suite par manque de preuves et par incohérence dans le discours de la plaignante.
Ouais.
Et je voulais savoir si... parce qu'il y a quelque temps, la parole s'est libérée auprès des femmes et voilà, voilà. Et du coup, Je voulais savoir si des gens mal intentionnés comme cette personne qui est un peu mytho sur l'histoire de Christophe Arendt.
Alors, je ne sais pas si on peut affirmer qu'elle a mytho.
Bah, y a quand même beaucoup de preuves que, comme quoi c'est faux. Elle avait envoyé des. C'est elle-même qui draguait en fait le monsieur Arendt.
D'accord. Non, c'est possible, je connais pas l'affaire. Mais
Mais
en tout cas.
de mémoire, ça a été classé sans suite, non?
Ça a été classé sans suite. Le député a porté plainte pour dénonciation calomnieuse,
Bon, ouais.
avec des
La
preuves comme
justice
quoi
rancera.
des captures d'écran de SMS qu'elle aurait envoyé, comme quoi en essayant de le
Ouais.
draguer, de lui faire des avances sexuelles. Et il aurait refusé, du coup, elle a un peu pété un plan, et du coup, elle a porté plainte pour agression sexuelle, alors que pas du tout. Et du coup, je voulais savoir si la libération de la parole des femmes n'était pas aussi, comment dire, problématique pour la dignité de certaines personnes. Parce que la personne de Christophe Arendt a été beaucoup bafouée, insultée, et du coup, je voulais voir savoir si c'était pas un peu dangereux que la parole se libère autant que ça.
C'est intéressant comme question. Parce que, en gros, on pointe un cas qui semble avéré donc de mythomanie et de fausses accusations. Et tu poses la question de savoir si c'est pas la preuve que toute la libération de la parole des femmes n'atteint pas ses limites et n'est pas finalement un peu dangereuse. Je pense que c'est un peu aller un peu vite en besogne et que c'est pas parce qu'un cas isolé semble avoir abusé de cette vague de libération de la parole pour mener de fausses accusations qu'il faut jeter à la poubelle toute la libération de la parole des femmes. Tu vois, je.
Faut pas jeter le
Totalement
bébé avec l'eau
d'accord.
du bain,
Faut
quoi.
pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Et puis,
Comment dire?
faisons un truc un peu rationnel, moche. Statistiquement, un cas sur combien de cas confirmés? Enfin,
Voilà.
voilà, pour l'instant, il y a un cas.
Si tu veux, t'as 1000 femmes qui disent avoir été
Après,
violées,
des...
il y en a une qui a mitonné dans le tas. Est-ce que les 999 autres, du coup, auraient mieux fait de fermer leur gueule? Je ne pense pas, tu vois.
Oui, mais après, j'ai pas envie de remettre en cause la parole des femmes, mais si une femme dit qu'elle a été violée par un homme, il n'y a aucune preuve. Aussi, on peut douter de la parole d'un. Et en fait,
C'est
je
tout le
crois que c'est
problème,
la
ouais.
présomption d'innocence a été beaucoup bafouée en ce moment. Et du coup, je me demandais si le tribunal médiatique n'en fait pas un peu trop avec ces histoires-là, en fait.
C'est compliqué effectivement. Comment donner de la valeur à la parole des femmes alors que les affaires judiciaires sont en cours et que la présomption d'innocence doit courir? Je sais pas comment dire.
Alors moi qui suis
Vas-y.
moins qui mets moins de gants que toi, parce que moi je suis pas l'animateur de l'émission, je vais donner un peu mon opinion
Vas-y, vas-y.
si tu me permets.
Vas-y, je t'en prie.
Sur la présomption d'innocence, déjà, je vous renvoie un texte de Maître Eolas de 2009 qui parle de la présomption d'innocence, où il dit, je vais faire très raccourci, la présomption d'innocence, ça existe, mais c'est que pour la justice. Ça ne concerne pas les gens en tant que tels. Toi comme moi, on n'est pas juge. Donc la présomption d'innocence, dans les limites de la diffamation, on peut à peu près se la mettre là où on pense. Il pousse même le raisonnement jusque très loin. Il dit, si on dit que la présomption d'innocence s'applique à tout le monde de cette manière aussi rigoureuse, bah tu portes pas plainte. Il y a présomption d'innocence.
Ah oui, si tu pousses le truc vers l'absurde, tu dis la présomption d'innocence devrait nous empêcher de porter plainte, ouais.
Ouais. Donc
D'accord.
déjà sur le mot présomption d'innocence, j'invite tout le monde à l'utiliser avec beaucoup de caution. Non, c'est à l'anglaise. Précaution en français. Avec beaucoup de précaution. Parce que voilà, si on pousse le raisonnement voilà, jusqu'à l'absurde, ben on porte la plainte, puisqu'il y a présomption d'innocence, et tant qu'il n'a pas été jugé coupable, on ne peut rien dire. Ah bah ben oui, mais si on peut rien dire, rien ne sort.
On peut pas porter plainte.
Et le deuxième point, c'est j'ai envie de dire, d'une certaine manière, la justice a fait son travail. Elle a dit qu'il s'était passé quelque chose,
Lui a apporté des éléments.
lui a apporté des éléments contraires. Ben voilà, elle aujourd'hui va.
Va devoir répondre de ça.
Je dis ça sans connaître le fond de l'affaire. Hein, je dis ça, je sais plus, je sais pas si ça a été classé sans suite, si lui a été innocenté, etc. Parce que c'est
Oui,
pas du tout la même chose.
ça a été classé sans suite et
Oui,
il
mais
a été
un
classé.
classement sans suite, ça
C'est pas un
peut.
blanchiment, hein.
C'est pas un blanchiment, ça veut dire il peut ne pas y avoir assez de preuves. Mais comme tu disais, le problème d'un viol, c'est parole contre parole. Alors, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, et puis je te laisserai y répondre, aujourd'hui, un certain nombre de toutes les paroles qui se sont libérées ont aussi ouvert les boîtes sur ces personnes, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'un témoignage a été apporté. Il y a des dizaines d'autres de témoignages qui sont arrivés pour parler des personnes médiatiques hein, là-dessus. Hein. Mmh. Pour Weinstein, une personne a parlé d'ailleurs, ces femmes qui font la une du Times là, comme personne de l'année. Mmh. C'est des dizaines qui sont arrivées. Il y a eu qui d'autres ? Il y a eu Louis C.K., cet humoriste américain. Il y a eu... qui d'autre enfin voilà tout,
il y en a
tout...
plein.
Ouais, il y en a plein. À chaque fois, c'est un témoignage qui a ouvert la boîte à des dizaines d'autres témoignages. On est loin du cas de ce député où c'est un témoignage face à voilà, une parole contre parole. Donc je pense qu'il faut avancer avec beaucoup de précautions là-dessus et voilà.
Voilà, qu'est-ce que tu en penses toi ?
Moi ?
Ouais.
En toute sincérité, j'en pense pas grand chose parce que tout ce qui est médiatique, judiciaire, j'ai beaucoup de mal à me faire un avis par rapport à ça en fait. Et c'est un peu un de mes problèmes, c'est que j'ai du mal à me faire mon propre avis et du coup, ça m'a beaucoup porté préjudice parce que je milite beaucoup politiquement et j'étais abusé dans le sens où on m'a fait croire certaines choses et du coup, j'avais une idée de certaines choses qui étaient un peu fausses et voilà, voilà.
D'accord. Tu sais, je pense pas que ce soit facile de se faire un avis sur ces sujets-là. Ouais,
je pense pas que ça soit préjudiciable non plus.
Comment dire ? Tous les avis ne sont. C'est la lettre S, ouais.
Ouais.
Tous les avis ne se valent pas et tu peux avoir un avis sur si tu préfères le sucré ou le salé. De là, avoir un avis sur des sujets comme ceux-là, c'est. Mmh. Comment tu veux te faire un avis dans une affaire judiciaire comme celle-là,
en fait ? Je pense qu'il est même plus sain de pas n'avoir un avis sur tout et savoir le dire. Et quand tu dis que t'as pas un avis sur tout, je trouve ça très sain. Moi j'ai tendance à croire que ceux qui ont un avis sur tout ont un avis sur rien puisqu'ils n'ont pas le temps de travailler les avis qu'ils ont. Voilà. T'as raison de te spécialiser dans tes avis.
Ben en fait j'ai beaucoup de mal à me faire mon avis parce que j'ai plein de sources contradictoires, on me dit ci, on me dit ça.
Et ça t'en auras toujours.
Ouais, et on abuse beaucoup de ma confiance puisque je suis une personne qui, vu que je suis quelqu'un d'assez jeune, je donne ma confiance facilement. J'ai milité avec beaucoup de mouvements, de partis, et du coup.
Mais c'est pas grave, ça.
T'en es conscient, hyper sain, quoi. Enfin,
c'est trop sain. Enfin, je sais pas, t'as l'air d'en faire un défaut, mais moi je trouve pas que ce soit un défaut.
Je sais pas du tout. Et du coup, ma dernière question.
Vas-y.
Je sais pas si t'es au courant, François Ruffin est venu à l'Assemblée nationale, enfin à la tribune de l'Assemblée nationale, ouais. En maillot de foot.
J'ai vu.
Ouais, j'ai vu.
Et il a été sanctionné.
Et il a eu un blâme et il a eu privé d'une partie de ses indemnités. Et je voulais savoir à partir de combien de blâmes la personne... enfin, à partir de 3 blâmes, il se passait quoi ? Si la personne ne pouvait plus siéger, si la personne pouvait se faire déchoir de son mandat ou voilà.
Je pense pas, non.
Si. Il y a des procédures. Alors,
là, mais c'est hyper grave pour se faire déchoir, c'est pas alors, parce que t'as mis un t-shirt.
Rarissime. Non, c'est rarissime, je te rassure. Là, il a fait une infraction au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il a donc reçu immédiatement ce qu'on appelle un rappel à l'ordre avec inscription à l'ordre du jour. Je rentre pas dans le détail, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Inscription compte rendu, pardon.
Procès-verbal.
Procès-verbal, voilà, c'est ça, inscription procès-verbal qui automatiquement lui donne. Il y a Perceval qui nous dit qu'il va monter son cabinet en Ardèche. Bah, merci Perceval pour ton don de 5 euros. Merci beaucoup pour ton don. Donc inscription au procès-verbal qui lui vaut automatiquement une retenue sur indemnité à hauteur de 1300 balles, je crois, comme ça. Il peut contester cette décision auprès du bureau de l'Assemblée nationale qui peut juger en deuxième recours.
Qui est composé des
présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale.
Des groupes ?
Non. Ah. Président, vice-président.
Des commissions ?
Ouais, c'est pas la conférence des présidents, le bureau, c'est... Mmh. Oui, il y a aussi les présidents de commission, t'as raison. Je sais plus. Putain, merde.
Ah ben voilà.
Enfin bref. Et donc oui, il y a tout un arsenal de sanctions qui existe jusqu'à la déchéance du mandat, mais qui est rarissime en fait. Je crois même qu'il
faut... Mais c'est arrivé une fois avec un député GDR.
Ah ouais ?
Si. Ouais, ça arrive une fois.
Non, tu confonds avec, comment il s'appelait, Maxime Grémetz.
Ah.
Maxime Grémetz avait été exclu de son groupe politique, mais il n'avait pas été déchu de...
C'est pas pour des affaires criminelles en plus que tu peux être déchu ?
Alors ça, non, ça oui, mais c'est la justice qui...
Mais parce que je vois mal juste des sanctions au règlement intérieur te faire perdre ton mandat quand même. C'est un mandat, t'es élu par le peuple, quoi.
Ouais, effectivement.
Le règlement intérieur, il a peu de poids par rapport à ça encore, un peu en démocratie.
Ouais,
il faudrait vérifier.
C'est peut-être une question qu'il faudra poser à Valentine, ça. Valentine Serino, qui vous fera l'émission Buvette à N la semaine prochaine.
C'est une nouvelle émission?
Ouais. Fait par Valentine. Charles qui nous fait un don de 5 euros. Viens dans mon Morbihan, Perceval, on manque de dentistes. Merci Charles qui repasse, top donateur d'Acropolis. Voilà.
Et qui est breton.
Et qui est breton.
On dédicace.
Quelqu'un de formidable. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un débat intéressant et je te propose qu'on continue ce débat avec d'autres personnes dans la libre antenne. Mais c'est un débat intéressant. Faut-il sanctionner un député qui se présente en maillot de foot dans l'hémicycle? C'est un vrai débat.
Bah, maillot de foot ou maillot de hand?
Ou maillot de hand.
À mon avis, qu'est-ce que t'en penses, mon avis, si c'est un maillot de l'Olympique de Marseille, là, on peut voir de grosses sanctions.
Allez.
Et voilà. Allez. Et voilà, les commentaires sont prêts. On va se faire défoncer.
On y va. Eh ben écoute, merci à toi en tout cas d'avoir lancé ces trois débats. Merci beaucoup et bon courage à toi et à tout ton lycée
club.
Et à tout le club.
Club,
à tout l'acro club de ton lycée.
Des bisous.
Bisous, des ciao ciao.
Bisous mec.
Ah mais c'est cool qu'on en vienne à ce débat là. Moi je pense c'est vraiment un débat de libre antenne ça. Est-ce qu'il faut sanctionner? T'en penses quoi toi?
Est-ce qu'il faut avec le maillot?
Maillot de foot.
Écoute, j'ai tendance moi j'ai une aversion totale contre le costard. Je ne m'habille jamais en costard au boulot, jamais personne ne m'a fait remarque. Après, je suis toujours habillé propre et sobre.
Oui, ça n'empêche pas d'être...
Mais après, je comprends la symbolique de l'Assemblée nationale. Mais j'ai envie de dire, si on est représentant du peuple, est-ce qu'on ne peut pas s'habiller comme le peuple? Et qu'est-ce que c'est s'habiller comme le peuple? C'est s'habiller un peu comme on veut. Je sais pas, j'avoue que je sais pas. J'ai tendance à être un peu anarchiste là-dessus.
Ouais, non, je te reconnais bien là. Honnêtement, je sais pas parce que... oui, je suis le premier à être d'accord pour dire que c'est débile d'imposer la cravate, par exemple.
Ouais.
Le premier à dire, écoutez, on s'en branle. Venez comme vous êtes, chemise dans le pantalon, veston, on s'en branle que t'aies une cravate ou pas. Honnêtement, on s'en fout, en 2017, c'est pas très grave.
Après, là, le François, maillot de foot.
François Ruffin, il a pas mis un maillot de foot. Il a volontairement arboré un maillot de foot pour souligner son propos, etc. Et c'est probablement plus le coup d'éclat que la tenue elle-même qui pose question. Après, en même temps, c'est débile ce que je dis, parce que même s'il avait voulu rentrer dans l'hémicycle en maillot de foot, je sais pas comment dire.
J'ai tendance à croire... Moi, j'avais ce côté un peu, je sais pas comment dire, souverainiste ou je sais pas quoi. Un élu, il est élu par des gens, il n'a de compte à rendre qu'à ces gens. Tu vois
Oui et non, il doit respecter aussi une discipline collective du...
Ouais,
dans
bien sûr, après, c'est vrai qu'il y a le règlement intérieur, mais bon. Ouais, je sais pas, j'avoue que je sais pas.
Bah, si on s'en tient à l'aspect purement pseudo-juridique du truc, évidemment qu'il doit être sanctionné puisqu'il a enfreint le règlement intérieur.
Ouais. Mais est-ce que le règlement
posons
intérieur...
la question du règlement intérieur, c'est la bonne question, et celle-là.
Exactement. Faut-il parce qu'il y a encore 30 ans, une femme qui venait en pantalon, une députée qui venait en pantalon se faisait tacler, quoi.
C'est vrai, les mœurs évoluent, je dirais jamais le contraire. Après, un maillot de foot, bon. Est-ce que c'est le fait qu'il soit de foot ou pas? Je m'en fous, non, c'est une tenue sportive.
Mais je suis pour l'abrogation du foot.
Et en même temps, non, mais c'est intéressant parce que rappelons-nous comment elle s'appelait, Roselyne Bachelot, tu te souviens, qui était venue en crocs parce qu'elle avait perdu un pari. Tu te souviens ça?
Oui, ça me dit vaguement quelque
Elle avait
chose.
Porté des crocs roses. Bon, tout le monde s'en foutait parce qu'en plus elle avait fait en soutien à, je sais plus, une cause sur le cancer du sein, j'en sais rien, enfin peu importe. Mais voilà, elle aussi à sa manière, elle avait arboré un truc. Donc je sais pas. On continue le débat, Sylvain, si tu peux nous dropper quelqu'un. Gagner du temps SVP. Ok, pas de soucis, j'aurais pas dû le lire. Ruffin fait aussi ajouter qu'il est millionnaire, donc il peut se permettre de faire n'importe quoi avec son indemnité. Comment ça il est millionnaire, Ruffin?
Je suis pas sûr que Ruffin soit millionnaire.
Remets ton micro devant ta bouche.
Je suis pas sûr que Ruffin soit millionnaire, pardon. Il tient juste Fakir, il vit de Fakir, et Fakir, il ne vaut pas millions. Hein.
Non, Fakir, c'est un truc de chômeur, ça, il n'y a pas de... Je vois plutôt le petit journal local qui essaie de...
Ouais, les mecs, en plus, ça a de toute petite rédaction, Fakir, il a une toute petite dizaine. Hein. Il a hérité, peut-être, je sais pas, vous savez des choses qu'on sait pas.
Je sais pas. Ah, merde, pardon, excusez-moi, j'appuie par mégarde.
C'est dur, ce jeu, quand même.
C'est pas facile, le Trackmania.
Tu m'aurais mis un petit Mario Kart, bon...
Ouais, mais sur ce PC, il y a que Trackmania qui tourne.
Et si on joue à la manette, à la rigueur, mais... au clavier.
On n'a pas de manette ici.
Il y a peu de moyens.
Il y a pas de manette ici. Non, il y a pas de moyens chez Acropolis. Non, putain, en plus j'ai retrouvé une manette de Xbox 360 chez moi. Je sais pas. Non, c'est un vrai sujet. Mais tu sais, moi-même, pendant longtemps, je mettais des chemises sur Acropolis. Tu te souviens?
Des chemises blanches.
Des chemises blanches, ouais. Bah, je recyclais celle que je m'étais achetée pour rentrer en cabinet.
Ouais.
Et voilà. Les droits d'auteur de Merci Patron, c'était costaud. Le coup du millionnaire, j'en ai entendu d'un autre élu, France Insoumise, d'accord.
Ah, que bonjour, messieurs.
Ah, que bonjour.
Ah,
Qui est-ce?
Présente-toi donc.
Raven, Corentin.
Raven, comment tu vas, Raven?
Bah ça va super, et vous les gars?
Bah écoute, ça va, une petite libre antenne.
Tout à fait, on est très mauvais à Trackmania, mais on aime bien parler avec vous, donc ça compense.
Non, bah je suis pire que vous, donc... pire niveau que Jean Massier. Hein.
Faut pas dire ça, pire que moi, impossible.
Ah si, t'inquiète, je t'assure. C'est faisable, c'est faisable.
De quoi tu voulais parler, Raven?
Ouais.
Eh bien, je voulais parler... Alors là, je vais y arriver. Bah à la base, j'étais parti sur côté Ruffin, tout ça, donc c'est un peu mort.
Bah donne-nous ton avis, comment ça c'est mort?
Millionnaire ou milliardaire?
Alors moi, je partais sur billiardaire, on va dire un truc comme ça, mais
Non, bon.
Je veux dire, sa tête, ça se voit qu'il a du fric. Voilà, je veux dire, c'est les insoumis. Hein,
les mecs, il a un maillot floqué.
Insoumis républicains, même combat, quoi. Coucou les insoumis dans le chat.
C'est Raven, hein, vous pouvez y aller. Pas responsable.
Tapez-moi dessus. Non, bah du coup, oui, ça m'avait un peu choqué quand même, le côté des sans cravate, etc. Du début, je me disais, c'est un peu juste du coup de com. Ça a été bien organisé comme coup de com, mais c'était vraiment du coup de com. Et par contre, ça m'a... Le côté maillot de foot, là, j'ai trouvé que ça faisait un peu loin pour une personne qui est... On va dire, ça fait un côté proche du peuple, etc. Je veux bien que ça marche comme ça, mais c'est... je trouve que ça fait presque indécent quand on voit qu'il y a des personnes qui se font sanctionner en entreprise, qui se font rabaisser par des patrons... Bah parce que ils ont pas la tenue adéquate, parce que ils sont un petit peu trop décontractés ici, qu'on juge les femmes aussi sur leur tenue, etc. Et que quand on élit une personne pour la qui est censée représenter la nation, au moins son territoire, voire la nation, je trouve que ça fait un peu je m'en fous en fait comme côté.
Tu veux dire qu'il y a une espèce de nonchalance dans le comportement qui est pas digne.
Bah, qui est assez dérange. Enfin, moi, qui m'a dérangé. Alors, j'ai pas voté pour lui parce que j'habite ni dans sa circo. Enfin, j'habite pas dans sa circo. Hein. Mm-hmm. Je suis dans la circo de Abad.
Damien Abad, d'accord.
Oui, un homme génial. Je parle chouette, pas forcément Damien des Abad. Idées, mais humainement, c'est quelqu'un de très bien.
Ouais, Damien Abad, ça.
Voilà.
Il t'as cool. pris une voiture spéciale sur l'actualité.
Ouais, non, mais c'est aléatoire. Donc, vas-y, excuse-moi, Raven, continue.
Pas de souci. Et du coup, oui, ça m'a donné un espèce de sentiment bizarre, un petit peu entre le « ah bah, il a osé quand même, ça fait du coup de com', c'est bien pensé, c'est... mine de rien, c'est réfléchi, c'est bien joué, c'est intelligent, il se prend un blâme, ça va pas lui faire grand-chose, honnêtement, parce que c'est, enfin, mon avis, c'est... je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je pense que c'est plus de...
C'est pas
du symbolique.
Hein. Non. Ah non, non, un blâme, c'est vénère. Hein. C'est une vraie punition.
Ah, je veux bien que tu m'expliques alors, pour le coup.
Déjà, c'est très rare, hein, que les députés soient sanctionnés. Faut le savoir. Uh-huh. C'est quand même des décisions assez exceptionnelles. Et là, il a été sanctionné avec inscription au procès-verbal, avec retenue sur indemnité, etc. Non, c'est sévère. Hein.
Ah d'accord, il y a une retenue sur indemnité,
ah,
etc.
Oui, le mec il a une amende. Hein. Ça regarde
ah,
pas
c'est...
du tout.
D'accord, c'est balèze.
Ah non, c'est balèze. C'est pas juste un petit rappel au règlement, un petit rappel à l'ordre. On est sur un truc costaud, hein, dans la hiérarchie des sanctions. C'est un truc, c'est pas anodin du tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale.
Ah, je pensais pas pour le coup.
Comme Mathieu.
Ben oui. Mais du coup, donc coup de com' bien pensé, mais risqué du coup.
Bah ouais.
Raté, il est tombé dessus. Et d'un autre côté, ouais, ça m'a donné un sentiment. Alors, je vais pas dire de dégoût parce que ce serait fort comme mot.
Ouais.
T'es un petit malaise, peut-être.
Un malaise.
Ouais,
un...
voilà, vraiment du malaise où je me suis dit ah, ça fait vraiment. Je viens à l'Assemblée nationale et puis franchement, j'en ai rien à foutre quoi. Je sais que je vais prendre la parole en public, etc. Que il y a Acropolis qui me regarde et ça c'est dingue. Que tout ça. Et c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment limite comme attitude quand on, pour une personne qui se dit proche des travailleurs, des choses comme ça, qui veut être proche des travailleurs, avoir quelqu'un qui fait quelque chose qu'on reproche justement aux gens qui travaillent, je trouve ça quand même vachement, presque méprisant en fait. Je dis pas que c'est quelqu'un de mal, hein, mais j'ai trouvé cette action méprisante.
Ok. Non mais why not, écoute, on continuera le débat avec d'autres personnes, mais merci d'avoir donné ton point de vue. Il y avait un sujet que tu voulais aborder autre que celui-là ou pas?
Alors oui, il y avait un sujet que je voulais aborder autre que celui-là. C'était sur l'IRFM, voilà. Je voulais savoir vraiment ce qui, globalement, alors j'ai suivi l'émission de Valentine évidemment, mais globalement, est-ce que la mesure, peut-être d'après vous, puis peut-être si vous pouvez, si vous avez une vraie réponse qui est même pas, qui est pas un avis, est-ce que c'est vraiment du symbolique ou est-ce que ça va vraiment changer quelque chose la réforme de, enfin du coup, c'est plus l'IRFM, je crois.
L'IRFM, donc, je rappelle pour les gens qui nous écoutent que l'IRFM c'est l'indemnité représentative des frais de mandat qui est versée aux députés qui leur permettent de couvrir un certain nombre de dépenses afférentes à l'exercice de leur mandat, n'est-ce pas? Et elle a été réformée. Pour le coup, c'est vraiment Valentine qui saurait te répondre. Moi, j'ai lu des choses très critiques sur cette réforme de l'IRFM parce que finalement, ça change pas grand-chose. Et les députés vont pouvoir continuer à se négocier les trucs sur le côté parce qu'en plus, je crois qu'ils ont, du coup créé une enveloppe supplémentaire pour les petites dépenses du quotidien. Donc en fait, ça va rien changer.
Ouais, une espèce d'enveloppe en liquide, quoi. Ouais. J'ai cru comprendre qu'il y avait
liquide,
un.
Non, il n'y a plus de liquide maintenant à l'Assemblée nationale. Heureusement.
D'accord.
J'avoue ne pas avoir assez suivi pour être capable de répondre.
Comment dire ? Non, pour te dire, est-ce que ça va changer les choses ? Oui. Parce que le simple fait qu'on ait ce débat et le simple fait qu'on soit en train d'en parler, c'est la preuve que quelque chose a changé. Il y a eu des choses qui ont changé en politique depuis l'affaire Thévenot, depuis l'affaire Cahuzac, etc. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le sens d'une prise de conscience que les députés ne peuvent plus se permettre de se comporter complètement n'importe comment. Que oui, maintenant, ils vont devoir avoir des responsabilités vis-à-vis de l'engagement des frais. Parce que ça reste de l'argent du contribuable et on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent du contribuable. Surtout quand on est représentant du contribuable. Donc voilà, c'est peut-être que on n'est pas allé assez loin. Je ne saurais le dire ni l'argumenter, c'est possible. Peut-être qu'on aurait pu être plus ambitieux, etc. Mais à la limite, j'ai envie de dire, peu importe, ce qui compte, c'est le sens du mouvement plus que la vitesse. Et je trouve que le sens du mouvement va dans le bon sens. Et voilà, je suis content que les députés culpabilisent un petit peu à l'idée de faire des conneries avec la carte bleue de l'IRFM. Encore une fois, c'est intéressant parce qu'on parle des députés comme ça, comme si c'était une masse informe, alors qu'en réalité, il y a par exemple les nouveaux députés, ils ne voient pas du tout où est le problème. Tu vois, demander son ticket de caisse quand on paye le restaurant, les mecs, c'est une habitude en fait dans le monde professionnel, tout le monde fait ça tout le temps.
Bah, moi j'étais à Paris pour le travail là, cette semaine, j'ai demandé des tickets à chaque fin de repas. Hein.
Bah voilà, enfin, j'ai envie de dire bonjour, c'est la vraie vie quoi. Et par contre, t'as
oui,
des députés.
Stéphane
de la Le Foll
avait tweeté un truc comme ça, genre ouais, merde, on va devoir se trimballer avec une pile de tickets, et puis je crois que c'est Valentine qui avait retweeté ou Jennifer. Valentine, je crois, qui avait retweeté, puis bon, Welcome to Real Life, quoi.
Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et Stéphane Le Foll, il fait partie, mais malgré tout le respect que je peux avoir pour Stéphane Le Foll, pas des masses. Stéphane Le Foll, oh, putain, c'est très méchant.
Il était drôle en.
Non, mais
en conférence.
C'était un très très bon orateur. J'ai jamais.
On s'en fiche, il est du pays de la Loire.
Malgré tout le respect que je peux avoir pour Stéphane Le Foll, il fait partie des vieux de la vieille. Non, mais ce mec-là fait partie des vieux de la vieille. Voilà, il fait partie de ces vieux apparatchiks. De l'Assemblée nationale qui ont connu l'époque où c'était open bar, open source, yep. On fait ce qu'on veut, youplaboum.
Open source, ça se saurait, mais ouais, open bar,
voilà, open bar quoi. Et bah oui, lui, ça doit lui faire bizarre. Bah, j'ai envie de te dire, mon coco, je suis désolé, mais bienvenue dans le vrai monde quoi. C'est exactement ce que disait Valentine sur Twitter. Et moi, ça me gonfle un petit peu les députés qui se permettent comme ça des réflexions du genre, oh, c'est pas pratique, on est obligé de demander des tickets de caisse. Là, pour le coup, je trouve ça vraiment indécent.
Ouais.
Fermez-la, un bon moment, une bonne fois pour toutes, fermez-la. Et si vous avez des trucs renfrognés à dire, gardez-le pour vous, pour vos collaborateurs, ouais. Vos proches, mais vraiment fermez-la quoi. Voilà, c'est mon petit coup de gueule à moi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. À mon sens,
là,
ça va
coup,
dans le bon
oui.
Sens.
Et je voulais savoir si vous me permettiez de poser une petite dernière question.
Je
après,
prie,
je vais quand
sûr,
même céder
bien
la
bien
place.
Sûr, bien sûr.
Il n'y a pas de quota.
Il y a 4 gens qui attendent quand même.
T'inquiète.
C'était sur la suppression des de la réforme de Blanquer, sur, ouais. De Monsieur le ministre Blanquer, sur la suppression des filières générales pour cette espèce de menu à la carte qu'ils veulent faire.
Ouais, le bac à la carte.
C'est ça. Moi, c'est une mesure que je soutiens. C'est quelque chose que je trouve intéressant parce que c'est. Moi, en gros, cette histoire de programme, c'est ce qui m'a empêché d'aller en filière générale parce que j'ai vu le programme DES, j'ai fait ouais, juste non. J'ai vu le programme DS, j'ai fait ouais, juste non, quoi. Alors, tous mes profs voulaient m'y envoyer en général. Et je me suis retrouvé en technologique, STG pour les anciens, STMG pour les nouveaux, je crois, qui est une très bonne filière. Et je voulais savoir justement quid des filières technologiques, quoi, parce que là-dedans, dans cette histoire, j'ai l'impression qu'on oublie complètement et que si on fait un système qui est plus, on veut faire un système plus adapté au profil de chaque étudiant en général, est-ce que si on parle pas tout de suite d'emblée des filières technologiques, est-ce qu'on va pas continuer à rabaisser ces filières-là, qui sont des filières qui sont, je trouve, très importantes, c'est-à-dire avoir STG, STMG pour on a l'avantage d'avoir des élèves qui ont fait du droit, de l'économie, du management très tôt. En STI, on a des élèves qui arrivent à la fac ou en DUT ou en BTS, qui savent coder, qui savent bosser sur de la grosse machine. En STL, des personnes qui sont déjà habituées au labo, etc. Donc, est-ce que ça, on va pas encore plus creuser l'écart qui est déjà très problématique entre les filières générales et les filières technologiques en se disant peut-être que les filières techno, on verra plus tard, quoi.
Eh ben, c'est une très très bonne remarque. Je t'avoue que j'avais pas du tout pensé à cet aspect-là. Moi, je réfléchissais beaucoup à les filières, le choix dans les filières, etc. Faut juste que je fasse un gros merci à Perceval, Love Ardèche. À quand une enveloppe mensuelle de 600 euros pour les petites dépenses de Jean Massier? Oula, 600, c'est pas assez, mon gars, tu savais. Le caviar, ça coûte un bras. Mais merci beaucoup, Perceval, pour ton don et pour du coup, ta participation à la cagnotte pour mes dépenses quotidiennes.
Merci Perceval.
Même si je rappelle que les dons Acropolis ne servent pas à ça. Mais merci à toi. C'est parfaitement vrai en fait ce que tu dis, Raven. Je t'écoutais, je me disais qu'en fait je m'étais pas du tout fait cette réflexion là. Effectivement, un bac à la carte une réforme du bac qui ne concernerait que le bac général, est-ce que ça ne risque pas de jeter l'opprobre sur, sur les filières technologiques et professionnelles qui sont absolument nécessaires, comme tu l'as dit, de très très bonnes filières, sous-cotées malheureusement. Donc voilà. J'ai pas plus d'avis que ça en fait, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis pas vraiment penché sur ce sujet-là.
Ben, pas de soucis, c'est.
Mais écoute, on garde ça en crâne.
Tu es trop en avant. Trop en avance sur nous.
Là, ouais, tu vas trop vite, mec.
J'avoue que je me suis pas intéressé à ceci.
Non, c'est un truc que j'ai vu pop sur 2-3 forums ou sur certaines vidéos de mecs qui font de la politique ou des trucs comme ça et qui disaient justement, c'est problématique parce que les filières technologiques, c'est des filières qui sont très prometteuses, qui sont capables de sortir des très très bons élèves. Et on est déjà dans un problème où en fin de seconde, on se retrouve avec les profs qui nous disent, bah, en gros, t'as une bonne moyenne, va en général, et puis si t'es un élève qui fout la merde, bah
vas en techno et en pro. Ouais.
En techno et tu nous fais pas chier. C'est un peu le problème que moi j'ai eu avec la filière STMG. C'est-à-dire, j'ai 20 ans, j'étais la première année. Hein. Merci Perceval dans le chat. qui m'a un truc sympa. Et ouais, c'était vraiment le problème que j'avais, c'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des classes qui étaient vraiment parfois limites en termes de comportement, etc., parce qu'on se retrouvait en majorité avec des personnes qui se retrouvaient là parce que les profs leur disaient, bah voilà, t'as une moyenne de merde ou tu fous le bordel, donc du coup on t'envoie là-bas, c'est un peu le fond du panier, quoi.
Ouais. Non mais c'est encore une fois, je ne sais pas quoi dire si ce n'est merci pour cet éclairage, parce que j'y avais pas pensé du tout, et on garde ça en tête pour les futurs débats qui ne manqueront pas d'animer l'Assemblée nationale.
Voilà, donc s'il y a des députés qui écoutent, hein.
Big up les députés, réfléchissez à ça les députés, faites pas de conneries les députés. Ouais. Merci Raven, merci beaucoup pour ton intervention.
Pas de soucis.
Et à très bientôt.
Merci beaucoup et à très bientôt les gars.
Bien le bisou, ciao ciao.
Bonne soirée.
Ciao ciao.
Je m'étais pas du tout penché sur la question de la réforme du bac. J'ai lu les interviews de Blanquer, etc.
Ouais, j'ai vu ça de loin aussi.
De très très loin. Ouais. Si vous saviez, c'est pas facile de s'occuper de. Ah merde, attends, je vais où là, putain.
Surtout qu'il y a un milliard de projets de loi qui sortent, qui sont toutes plus. Comment dire? Qui cassent tout à chaque fois. Enfin, qui cassent tout. Pas, je suis pas obligatoirement péjoratif quand je dis ça, mais.
Non, mais
qui remettent tout en question.
Et
donc c'est difficile de suivre. Hein.
Donc vous imaginez pour un député qui sont moins bons que nous, parce que les députés sont en moyenne quand même moins intelligents que nous, il faut le reconnaître. Nous on a été formés par BF, on est quand même.
Magali Alexandre
nous a formés, donc si tu veux on est au sommet intellectuellement.
Au maximum. Jusqu'au bout.
Gros bisous à Magali Alexandre si elle nous écoute. Allô. Ah non, pardon, j'ai entendu des limes.
Pas d'amis.
C'est comme Flo qui a une mauvaise moyenne au bac, Acropolis, et on l'a envoyé au Canada. Pauvre bichon. Hugo Decrypt vient de sortir une vidéo à ce sujet. Ah mais oui, j'ai vu la dernière vidéo d'Hugo Decrypt, j'ai juste vu le thumbnail, j'ai pas encore regardé la vidéo,
non.
Qui parle de ce sujet-là. Donc foncez voir la vidéo d'Hugo, il vous expliquera peut-être un peu.
Décrypteur.
Décrypteur. Le mec, il est aux États-Unis, continue à faire des vidéos, ça m'énerve. Allô.
Il y a eu un bip, ouais. Allô.
Allô.
Salut.
Salut.
C'est qui?
Est-ce que vous m'entendez bien?
On t'entend bien. Fort bien.
Parfaitement. Eh ben très bien. Donc Darbichon ou Alexandre plutôt.
Salut Alexandre, comment tu vas?
Je vais t'appeler Darbichon.
Ça va, ça va. Ok, ça marche.
Je vous disais bien que je connaissais cette voix sur PIBG.
Tout à fait, exactement.
Comment tu vas?
Eh ben bien, très bien. Très très bien.
Quoi de neuf?
Moi du coup pour ce soir, j'avais... C'était un... un contre-carton rouge, on va dire.
Vas-y.
Puisque j'ai vu ce matin Jean-Michel Apathy mettre un carton rouge à Jean-Luc Mélenchon sur la question de la mort de Johnny, comme quoi Jean-Luc Mélenchon n'aurait rien à dire, etc. Mmh. Et je trouve que, bon, journalistiquement, je pense que c'est, bon, c'est proprement scandaleux, en fait.
Ah ouais ?
Ça montre... Ah oui, parce que, si tu veux, après, ça a été décrypté par un journaliste du Lab, Sylvain Chazot, qui a montré, justement, l'intégralité de la séquence dans la vidéo... dans la vidéo de Mélenchon, en taclant au passage Apathy en disant qu'il avait dit n'importe quoi.
Alors, on va quand même rappeler pour les gens qui nous écoutent ce dont on est en train de parler, parce qu'il y en a peut-être qui sont complètement largués. Jean-Luc Mélenchon fait des vidéos sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Les Revues de la Semaine, où une fois par semaine, il passe un petit peu en revue, comme son nom l'indique, l'actualité de la semaine, et il dit un petit peu son avis. La dernière vidéo de la Revue de la Semaine, Jean-Luc Mélenchon a dit quelques mots sur la mort de Johnny Hallyday, et ce qu'il a dit, c'est justement l'objet du délit, puisqu'il a dit moi, je n'ai rien à dire sur le sujet, on m'interroge, etc. Moi, il n'a pas besoin de moi, Johnny Hallyday, pour savoir qu'il a fait de la musique qui a touché le monde entier, enfin toute la France, etc. On me demande absolument de donner mon avis. Moi, vous savez, parfois, j'ai pas d'avis à donner. Il vaut mieux que je donne pas d'avis quand j'ai pas d'avis à donner, etc. En gros, c'était ça le propos de Jean-Luc Mélenchon dans sa vidéo. Et Jean-Michel Apathy, qui est un journaliste éditorialiste que l'on sait assez peu enclin aux idées insoumises, c'est une jolie manière de le dire, a effectivement, comme tu l'as dit, donné sur Twitter un carton rouge à Jean-Luc Mélenchon en disant c'est intolérable de la part d'un homme politique de dire comme ça son mépris pour la mort de Johnny Hallyday, en disant je n'ai rien à dire, quand des millions de gens sont émus par la mort de quelqu'un, la moindre des choses c'est de respecter cette douleur en évitant de dire ce genre de choses. Voilà, ouais, donc là je te laisse reprendre la parole.
Voilà, il disait sous-entendu ne pas avoir de mots là-dessus, c'est pratiquement cracher au visage des Français, ne pas les comprendre, etc., etc. Donc voilà. Moi je trouve que c'est quand même vraiment plus que limite, et au-delà même du fait de ses affinités politiques que je ne connais pas, mais en tout cas c'est sûr qu'elles sont pas insoumises. Je trouve que c'est quand même vraiment limite, et du coup ça pose aussi une question par rapport justement à ce que disait Mélenchon hier ou avant-hier, je sais plus, sur son fameux comité d'éthique un petit peu journalistique, etc. Alors moi, à titre personnel, pour être totalement clair, je suis insoumis, membre de la France insoumise, mais je suis pas favorable à ce genre de comité là, même si ça existe ailleurs. Mais objectivement, voilà, on se dit que pour ceux qui sont favorables à ça, bah, ça peut montrer quand même une utilité, parce que là-dessus, c'est un petit peu un cas d'école quand même. Quelqu'un qui tord volontairement la réalité, qui se fait ensuite chausser sur les réseaux sociaux. Où les gens lui disent, mais mec, regarde vraiment ce qui a été dit, on te le met par A plus B, regarde. Et il reste totalement dans son truc. Il pourrait tout simplement reconnaître, en fait, oui, j'ai dit une connerie, j'ai fait une erreur, bah, j'assume, voilà, mais j'ai fait une connerie. Et même pas. Donc il y a une espèce de morgue, en fait, qui moi, me paraît assez quand même dommageable quand on est journaliste et qu'on est aussi, bah, mine de rien, un leader d'opinion. Et j'ai un peu l'impression que certains utilisent ça et font influent, ouais, vraiment l'opinion, et puis sont dans du bashing. Alors, j'aime pas le terme, mais enfin, vous voyez l'idée, quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais ce que tu veux dire.
Voilà, c'était un
contre-carton rouge. Effectivement, ça agite un petit peu la toile en ce moment, cette micro-affaire. On commence à être habitué à avoir des micro-affaires qui agitent tout le monde, d'ailleurs.
Oui, ça.
J'ai envie de dire, en plus, celle-ci vient s'ajouter à celle d'il y a 2-3 jours, enfin, sur Mélenchon, pareil, avec ses mots coupés. Enfin, ça vient.
Ses extraits coupés par France
2. Quand il est passé sur France 2, etc., etc.
Mais France 2, au moins, a eu l'honnêteté de reconnaître qu'ils ont. Oui, en effet, ils se sont trompés, ils ont fait une erreur de montage, enfin voilà, au moins ils ont reconnu. Là, ça au moins, on peut pas leur enlever, et c'est très bien, c'est le minimum d'ailleurs.
Mais en même temps, si je puis me permettre, Jean-Michel Apathy, lorsqu'il donne un carton rouge, n'est pas dans un rôle de journaliste, il est dans un rôle d'éditorialiste.
Oui.
Alors, n'est-ce pas le rôle d'un éditorialiste que de donner son avis, précisément ?
Bah, de donner son avis, oui, mais de là à faire du... Alors, c'est pas du fake news, mais c'est du alternative news, un petit peu, quand même.
De tronquer la réalité pour qu'elle corresponde mieux à son
opinion.
Voilà,
c'est complètement tronqué, et je pense que, du coup, un éditorialiste reste quand même au service de la même cause que
Non,
que
je suis pas d'accord avec ça, moi, pour le coup.
Après... Il est sur le service public, c'est pas comme s'il était dans un média.
Non, Twitter n'est pas le service public. Jean-Michel Apathy, futile journaliste du service public, garde sa liberté d'expression et sa capacité, s'il le souhaite, à donner des cartons rouges à qui il veut.
Je pense.
Tronquer la réalité pour. Enfin, je vais être très méchant. tronquer la réalité pour qu'elle corresponde mieux aux opinions qu'on a envie d'en tirer. Est-ce que c'est pas un peu ce que fait Jean-Luc Mélenchon toute la journée vis-à-vis d'Emmanuel Macron?
Non, bah, peut-être. Non, mais...
Troll Troll à, troll à 2000%, alors, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un peu le petit jeu nul, hein, clairement c'est le petit jeu nul, auquel tout le monde se prête en ce moment, qui consiste à prendre les petits extraits qui nous conviennent. Regarde ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon sur Emmanuel Macron en Afrique, tu vois. C'est juste, on est dans du discours tronqué, quoi. Emmanuel Macron ne peut pas faire un discours sans que la France Insoumise n'en retienne qu'une seule phrase pour bien lui écraser la gueule derrière.
Je suis tout à fait d'accord, et quelle que soit d'ailleurs la personne qui émet ou qui reçoit ce genre de critique, c'est pas normal. Justement,
c'est là que je suis pas d'accord avec toi. C'est que quand moi je dis ça, je dis que c'est pas totalement anormal. C'est que ça fait partie du truc, en fait.
C'est le jeu,
ma pauvre Lucette. On trompe tous.
C'est le jeu, mais justement.
Est-ce que ce jeu nous grandit collectivement? Non.
Non, voilà,
ça va pas dans le sens d'un monde meilleur.
Et donc, quand des journalistes utilisent cette manière de faire, ou quand des politiques, en l'occurrence, la France Insoumise, mais les autres aussi.
Mais les autres aussi, bien sûr,
voilà, tout le monde, hein,
bien entendu.
Allez, moi, étant membre de la France Insoumise, je me dis, allez, on est un mouvement qui fait.
Qui essaie de faire mieux que les autres.
Qu'on essaie de faire mieux. C'est dommage de tomber là-dedans. Et on tombe là-dedans, objectivement. Il y en a énormément. Peut-être même moi le premier sans m'en rendre compte, c'est fort possible. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment un ras-le-bol sur cette manière aussi, en tout cas, où, voilà, comme tu disais, on retient les petites phrases, on coupe, comme ça nous arrange, et au final, on parle plus de fond. Voilà.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est un carton rouge collectif à notre capacité dans ce pays à avoir des débats assez stériles, il faut le reconnaître, sur des points de détail.
Toujours très manichéen, hein. C'est ça aussi.
Ah, c'est tout un noir et blanc. T'as les gentils, les méchants. Ça me rend dingue. Ça me rend absolument dingue.
Moi, je suis d'accord avec ça.
Je sais pas. Ça nous force à une réflexion un peu collective sur quel débat on veut dans ce pays, en fait. C'est juste pas normal.
La qualité du
débat public, en fait. On est tous d'accord pour critiquer la qualité du débat public. On est tous d'accord pour dire que c'est pas à la hauteur. Ok, très bien. Maintenant qu'on a dit ça, quelle autocritique on se fait collectivement pour se dire que nous, à notre petite échelle, on n'est pas non plus vraiment à la hauteur, quoi. Parce qu'on se prête collectivement à ce petit jeu du tronquage qui nous arrange bien, de la réflexion sur juste la partie du
discours qui
nous arrange bien, et c'est rigolo.
Mais c'est vrai que c'est rigolo, on se dit, voilà, on sort une petite phrase, c'est marrant.
Non, puis c'est plus que rigolo, en fait, c'est malsain, parce que ça nous conforte dans nos convictions. Quand t'es absolument persuadé que Emmanuel Macron est quelqu'un de très méchant, et tu lis n'importe lequel de ses discours en ne retenant que les phrases qui te conviennent dedans. Et inversement vis-à-vis de Jean-Michel Apathy, et inversement vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Et en fait, on se convainc tous de détester les autres, et à aucun moment on ne trouve des ponts. Enfin, je sais pas trop quoi dire d'autre, parce que c'est des belles intentions ce qu'on est en train de se dire, et donc je suis d'accord en fait avec ton carton rouge à Apathy, qui n'a clairement pas été à la hauteur du niveau intellectuel qu'il se prétend avoir quand il fait des analyses politiques. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
poursuivre très légèrement sur la question du manichéisme, et là du coup ça rebondit un petit peu avec le sujet qu'il y avait tout à l'heure sur Trump, l'intifada, etc.
Ouais, vas-y.
Ça aussi c'est un truc justement, voilà, entre les gentils et les méchants. Alors Trump, bien entendu, je vais pas le caler dans le camp des gentils, ça c'est clair, mais du coup en faisant son truc, sa déclaration unilatérale, ça fait quoi? Ça veut dire que des gens comme le Hamas, c'est quand même un mouvement terroriste,
rappelons-le, ouais.
L'UE, les USA, faut voir aussi son projet politique, qui est quand même sacrément dégueulasse.
Non, c'est des connards, ça y a pas à dire.
Mais tu vois, moi j'ai vu énormément de gens aujourd'hui qui disent « Ah oui, mais bon, s'ils sont contre Trump, au final, c'est peut-être que c'est des résistants. » Avec l'emploi du terme « résistant ».
C'est terrible.
Et voilà, ce manichéisme constant, moi, c'est un petit peu ma
non, mais c'est vrai que je suis absolument d'accord avec toi sur le manichéisme, et t'as parlé du bon exemple, le conflit israélo-palestinien, qui est quand même une invitation au manichéisme le plus absurde. C'est qui les gentils, c'est qui les méchants dans l'histoire? C'est pas comme ça que ça marche. Et
celui qui a une réponse qui me la donne, parce que.
Moi j'en ai une.
Okay. Vas-y.
C'est les Syriens.
Alors. Les gens qui meurent alors qu'ils ont rien demandé, c'est les gentils. Les gens qui tuent les gens qui ont rien demandé, c'est les méchants.
Mais si c'est une balle perdue, comment ça se passe?
Mais ils ont rien demandé.
C'est exactement ça la bonne réponse.
Il fallait pas tirer.
Non, mais c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je déteste le Hamas et Netanyahou. Et alors, dans quel, dans quel camp est-ce que ça me met?
Voilà,
je ne sais
exactement.
Pas. Voilà, je n'ai pas la réponse. Je ne sais quoi vous dire. Et non, je ne suis pas... Mais c'est marrant, ça me fait penser au débat sur... sur Charlie Hebdo contre
Dupenel.
Bah voilà.
Contre Dupenel, non, tu voilà, vois, pareil, il y a un côté noir et blanc où, en plus quand t'es de gauche, t'es obligé d'avoir
c'est compliqué là quand t'es de gauche.
De quoi?
C'est compliqué quand t'es de gauche.
Ah, quand t'es de gauche, putain, t'es obligé d'avoir un avis là-dessus, quoi. C'est...
Bah, moi, wow. Si tu veux, moi, c'est assez drôle parce que je passais de minute en minute du camp de l'islamo-gauchiste à celui du facho et inversement, ça revenait.
Ah, mais
moi,
pareil.
C'est que ce truc.
Et moi j'ai fini par avoir une position qui était de dire, mais c'est pas prioritaire en fait ce débat. Je suis désolé, il est fascinant sur le plan intellectuel.
Même pas.
La reconfiguration de la gauche. Mais bordel de merde, il y a quand même 2-3 autres sujets sur le moment. Enfin bon, ouais, non mais. C'est sûr. Donc voilà, je pense que la conclusion de tout ça, c'est soyons, nous au moins sur Acropolis, ayons l'intelligence de faire attention au manichéisme parce qu'il ne rend service à personne et sûrement pas au débat démocratique. J'ai encore appuyé sur la mauvaise touche, fais chier.
Exactement.
Et disons tous collectivement que cette piste est infaisable.
Elle est infaisable, la piste de Trackmania. Je vais me concentrer 30 minutes. Mais en tout cas, un grand merci à toi de nous avoir partagé ça et merci pour ce niveau de débat pour le coup.
Merci
et
pour ton intervention.
Et à bientôt et bravo pour tout ce que vous faites.
Merci, t'es au top. Des
merci
bisous,
à
ciao,
toi.
Ciao.
Allez,
bisous.
Ciao.
Et il faut qu'on remercie. Attends, je vais restart. Arcturus qui nous a fait un don de 5 euros. On en est à 3 points. Et toi, tu en penses quoi? Il y en a un jeu qui compte double. Ça fait donc 4 euros plus 1 parce que je veux bien mettre au moins de 5 euros. Bisous les gens. Merci Arcturus. Mais oui, mais c'est un peu ça la philosophie d'Acropolis, justement. Et toi, t'en penses quoi? Dites-le nous, vous, ce que vous en pensez. Et essayons collectivement de grandir finalement en nous nourrissant les uns les autres.
De manière très manichéenne, pensez-vous qu'un jour, Jean ou moi allons réussir à finir cette piste qui est infaisable?
Je l'ai fini en médaille d'or, tu vois.
Sinon, t'as pas un petit émulateur Pokémon?
Laisse la police faire son travail, ta race! Pardon.
Elle est impossible.
Elle est horrible cette map. Et putain, on est dans les niveaux verts ou rouges là, je sais plus.
Ah, salut! Ah non, j'ai entendu les bips.
Ouais, moi aussi, mais apparemment.
Sylvain dit oui, mais la personne est timide peut-être.
Allô, personne timide, qui es-tu? Parle-nous.
Parle-moi de toi. Ah, ça a coupé. Comme les plus grandes heures de Skyrock. Hein.
J'ai envie de dire. Tu te souviens de l'époque où Skyrock, ils appelaient Jack Lang le soir?
Non.
Allô, oui. Bonsoir, monsieur le ministre, c'est Difool. Oh, Skyrock, comment t'as... Mais tu te souviens pas de ça?
Non. Mais c'est une très belle imitation de Jack Lang.
Hein, oh, Difool, Skyrock, bonjour les jeunes, bonjour. Ah, je suis à la radio, ah, ça me fait plaisir de vous avoir. Et en fait, Difool, il avait le numéro de téléphone de Jack Lang. Et de temps en temps, il l'appelait le soir. Et Jack Lang, il répondait à chaque fois, il était genre trop content. Et c'était des moments un peu what the fuck à 23h où Difool appelle Jack Lang. Pas. C'était trop drôle. Ça marche là, il y a quelqu'un? Allô, oui, bonjour.
Allô, est-ce que c'est Pierre? C'est Pierre Lapin, là, pareil.
Oh, c'est Pierre Lapin!
C'est Pierre Lapin? Tu déconnes.
Oui.
Le Pierre Lapin?
C'est moi, exactement. Oh,
je reconnais la voix, je reconnais la voix.
Trop la classe, mec, comment tu vas?
Ouais.
Écoute, ça va, un petit peu fatigué, car je lance bientôt un gros projet.
Ah ouais? Tu veux nous en parler ou c'est sous embargo?
Ah bah oui.
Vas-y,
je viens d'annoncer ça donc, il y a quelques heures. Donc, alors, ce week-end arrive le Téléthon.
Ah oui,
donc,
oui.
Décider de faire un petit peu un téléthon alternatif, donc basé un peu sur le gaming pour un peu toucher des populations un peu plus jeunes, car je suis moi-même concerné par la maladie et des fois je me sentais pas forcément représenté par le vieux téléthon qu'on peut voir à la télé, donc j'ai un peu la volonté de rajeunir l'image. Mmh. De ce grand événement. Et donc, du coup, avec l'aide de France TV, du stream, de la JVTV, ben, j'organise un grand live de midi à minuit. Donc, sur ces chaînes-là et sur notre chaîne Téléthon Gaming.
Putain, trop bien!
Donc, voilà, où on accueillera des influenceurs. J'aime pas trop ce mot-là.
Moi non plus, enfin, je le déteste, mais je vois très bien de qui tu veux parler. Oui, voilà.
Et un petit dispositif exceptionnel où, en fait, pendant notre live, juste à côté de nous, on a en place des posts où ce sera un peu le Lions Club 2.0 où des streamers viendront récolter de l'argent sur leur propre chaîne. Donc, ils feront un peu leur petite vie, mais ils récolteront pour notre chaîne. Et on laisse la possibilité aux gens qui ont une chaîne Twitch ailleurs, qui ont des petits viewers ou pas du tout, de participer aussi. Où on mettra en place un espèce de pack de streamer avec tous les outils pour streamer, les overlays, les boutons et bien sûr le lien de notre cagnotte.
Putain,
et tout sera linké grâce à Tipeee Stream qui enverra donc tous les alert box sur notre flux principal. Donc voilà.
C'est une super initiative. Chapeau, chapeau. Pierre Lapin, je rappelle, hein, qui est avec nous dans la libre antenne, qui est donc le fondateur de la chaîne YouTube dont on parlait tout à l'heure, le club, avec Guilhem Malissen.
Exactement.
Voilà. Donc c'est un vrai honneur de t'avoir. C'est un super projet, ouais. Putain.
Je suis fanboy total.
Ouais.
Mais non, c'est un super projet. Ça a lieu quand, du coup, de midi à minuit?
Alors, de midi à minuit, donc le samedi 9 décembre, donc ce sera sur la chaîne twitch.tv/tvtongaming. Ouais. Ce sera diffusé également sur le stream. Enfin, le stream.fr.
Le stream, ouais.
Et la JVTV. Donc voilà.
Putain, c'est trop bien. Bah, cool. Écoute, c'est une super initiative.
Merci.
On va essayer de se démerder avec Acropolis pour y participer, même si ça va être un petit peu compliqué en termes d'agenda, mais on va quand même se débrouiller pour le faire.
Vraiment super.
Mais non, on va essayer de le faire. Mais putain, c'est une super idée.
Écoute, on va essayer vraiment de sensibiliser un peu. Je vais essayer aussi de faire une heure, par exemple, avec. Je vais un peu vous donner une exclusivité. Avec Bruce Dipensée et Julien Méniel.
Yes.
On va réussir à avoir des chercheurs. Donc, en fondamental et clinique, pour nous parler un petit peu des nouveaux enjeux sur la thérapie génique, sur les avancées, un peu refaire le parcours d'un malade type et voir un peu où le Téléthon opère un peu sur un parcours type. Donc, moi, je suis bien placé pour le savoir, hein, ne serait-ce que juste qu'un Western blot, c'est-à-dire le Western blot, c'est ce qui permet de définir un peu la maladie qu'on a, bah, ça a un coût. Et que ça, c'est important. Et que le Téléthon, c'est pas que pour guérir des malades, mais aussi c'est des structures d'accueil, c'est des suivis psychologiques ou juste avoir un petit sandwich au relais plutôt que de la purée jambon dégueulasse de l'hôpital, quoi. Donc voilà, on va essayer de sensibiliser un peu tout ça et surtout de façon pas trop ouin-ouin et ludique.
Mais tu as parfaitement raison. Eh ben écoute, c'est une super initiative. On suivra ça de très très près. Merci de nous avoir partagé cette petite exclusivité en plus sur les invités. Mais écoute, c'est bien la moindre des choses. Et encore une fois, Yann et moi, on est des grandes fanboys de ce que tu fais.
Ouais, total.
Et vraiment, c'est très très cool.
Et merci écoute, beaucoup.
On te voit très bientôt. Merci, gros bisous à toi.
Bonne soirée à vous, bon courage.
Salut.
Salut.
Merci.
C'est pour ça que j'adore Acropolis, vous présenter autre chose que du manichéisme politique. Continuez comme ça, vous êtes super. Merci Fandam, t'es absolument adorable.
Pourtant, j'essaie vraiment de pousser au manichéisme. Personne me laisse faire.
Ah, mais toi, tu sais qu'on te déteste sur Acropolis. Salaud. Salaud de gauchiste.
Je tiens à dire que rien que d'entendre la voix de Pierre Lapin, j'ai eu.
T'es une demi-molle, toi aussi?
Déjà, et des frissons. J'ai fanboyé total.
Ah bah écoute, putain, c'est hyper cool. Pierre Lapin qui vient dans les montagnes.
Il fait confiance à la chaîne pour parler de son projet. Je trouve ça cool.
Et c'est une vraie reconnaissance. Donc je suis très très content. Et c'est un super projet, ce Téléthon Gaming. Enfin, vous avez probablement suivi, si vous suivez Twitch un petit peu, un certain nombre d'initiatives qui ont très bien marché ces derniers temps. Je pense aux AGDQ par exemple, ou alors aux The Event récemment avec l'ouragan Katrina, avec l'ouragan Irma, pardon. Voilà, donc nous le peuple d'internet. Nous aussi, on a le droit de participer à l'effort collectif pour lutter contre la maladie, de solidarité, en l'occurrence la maladie avec le Téléthon, mais plus globalement, et donc ça a du sens, et c'est cool, et c'est cool, et moi c'est avec grand plaisir que je ferai mon maximum pour y participer, c'est quand même bien la moindre des choses. Donc voilà. Écoutez, chers amis, je pense qu'on est en train de tirer petit à petit vers la fin de cette libre antenne. On va pas prendre de nouveaux auditeurs. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont passés. C'était vraiment des interventions de qualité ce soir. C'était vraiment cool. Ouais. C'est jamais des interventions de merde, tu me diras, dans les libres antennes. Non. C'est ça qui est chouette avec les libres antennes.
Mais je suis content d'avoir passé cette soirée avec vous, en tout cas pour la première fois.
Nous, on est très content de t'avoir reçu, Yann, au studio pour Acropolis. Donc voilà. Écoutez, chers amis, je vous rappelle que il y a l'apéropolis samedi soir à 20h. Au 11 bar, donc dans le 11e arrondissement. Je vous rappelle qu'il y a un certain nombre d'émissions que Sylvain ne va pas tarder à me rappeler. L'Europe, c'est demain à 19h et ça parlera, tu me l'as dit tout à l'heure, du Brexit. Jennifer nous fera un point sur les négociations sur le Brexit. Vous savez que c'est un petit peu le bordel en ce moment avec l'Irlande. Jennifer vous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi. Voilà, donc demain, 19h, l'Europe. Et samedi soir, donc samedi après-midi, le Téléthon de midi à minuit sur Twitch et le soir, donc
apéro
police.
Il n'y a pas moyen qu'on arrive à user notre 4G pour remettre des trucs. Je sais pas si vous y arrivez. Techniquement, c'est possible.
Pourquoi?
Je sais pas, pendant le bar, de mettre des trucs sur le YouTube ou sur le Twitch. Tu crois? C'est possible?
Dans le cadre du Téléthon, en fait, je sais pas, je suis en train de réfléchir parce que nous, le reste du temps, on a une conférence avec Sylvain sur l'Europe.
Samedi soir?
Samedi, toute la journée, en fait.
Ah non, mais je voulais dire pendant l'apéro.
Tu veux faire quoi pendant l'apéro? Tu veux streamer l'apéro?
Pourquoi pas? Ou des morceaux? Faire des interviews de gens qui viennent? Je sais pas. Moi, je propose des trucs, hein.
Non, mais t'as raison. C'est. De quoi?
Périscope, ouais, on périscopera probablement.
Ouais, on peut, voilà.
Ouais, ouais, on périscope.
On peut interviewer des gens qui sont là, leur dire.
Pour ceux qui ne pourront pas être là.
Ouais.
Chers amis, ça a été un vrai plaisir de passer cette soirée avec vous comme toujours. Merci la communauté d'Acropolis, vous êtes au top, cœur sur vous. Merci Yann, merci Sylvain qui s'est occupé de la régie toute cette soirée. On vous fait des bisous, générique, fin d'émission. Ciao, bye bye, salut salut.